Mali.
Studio Tamani, voici nos informations en français.
8h à Bamako, vous écoutez Studio Tamani. Bonjour à tous et bienvenue à cette édition matinale. Voici les titres. Après la nomination de Mokhtar Wane comme Premier ministre, les Maliens attendent la formation du nouveau gouvernement. Selon des sources, les nouveaux membres du gouvernement devraient être connus au plus tard ce mardi 29 septembre. Les régions du Nord sont très touchées par le paludisme en cette période. Selon des responsables sanitaires, cette multiplication des cas s'explique par la non-tenue de la campagne de vaccination contre le paludisme. Grève au sein des universités et instituts depuis le jeudi dernier. Selon les responsables de l'AIM, cette grève s'explique par la prise en otage des attestations de la licence de certains étudiants de l'année dernière, mais aussi les irrégularités des semestres. Point complet de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, mise en onde Nohom Djiré. La liste des membres du gouvernement de la transition devrait être connue au plus tard ce mardi 29 septembre. Ce gouvernement devrait être composé de la société civile, des militaires, des partis politiques, des groupes armés, des religieux et des technocrates. La composition de cette nouvelle équipe gouvernementale intervient après la nomination du chef du gouvernement, Mokhtar Wane, par le président de la transition, Ba Daoua. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest maintient sa pression sur le Mali. Après les nominations du président, du vice-président et du premier ministre de la transition, l'organisation sous-régionale conditionne aussi la levée des sanctions à la présentation de la version finale de la charte de la transition. Toutefois, la CDAO et le CNSP ne partagent pas les mêmes avis sur le profil du remplaçant du président de la transition en cas d'empêchement temporaire ou définitif. Khalifa Goïta.
Nous, on travaille avec la charte qui a été lue lors de la cérémonie d'investiture du président et du vice-président de la transition, nous a confié un responsable du CNSP. Cette charte lue par le procureur général de la République le 25 septembre dernier stipule que le vice-président remplace le président de la transition en cas d'empêchement temporaire ou définitif. Toutefois, pour la CDAO, le vice-président ne peut pas remplacer le président de la transition en cas d'empêchement ou de démission. L'organisation sous-régionale demande également la dissolution du CNSP et la libération des personnalités arrêtées le 18 août dernier suite au coup d'État. Pour l'heure, la junte militaire ne s'est pas prononcée sur la libération des personnes arrêtées, mais elle a réaffirmé sa volonté de dissoudre le CNSP après la mise en place de tous les organes de la transition. Rappelons que certaines exigences de la CDAO ont déjà été satisfaites. Il s'agit notamment de la nomination d'un président et d'un premier ministre civil pour diriger la transition. La formation du gouvernement de transition est attendue dans les prochaines heures.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Une multiplication des cas de paludisme est signalée dans plusieurs localités du nord du pays. À Bourem, Menaka ou encore Ansongo, les structures de santé sont prises d'assaut par les malades souffrant de paludisme. La situation préoccupe les autorités sanitaires de ces localités qui font face à une rupture de médicaments. À Bourem, notre correspondante Diane Touré s'est rendue au centre de santé de référence.
Des patients couchés à même le sol, des accompagnants assis à leur côté. Au centre de santé de référence de Bourem, de nombreux cas de paludisme sont enregistrés chaque jour. La plupart sont des enfants. Cette dame, venue accompagner une malade, s'est dit dépassée par la situation.
C'est vraiment une maladie épidémique, sans remède, je peux dire. Parce que tu traites, deux jours, troisième jour après, le malade rechute encore. Les ordonnances qui viennent en baraque, dont on ne connaît même pas le montant. Actuellement, l'hôpital est débordé. Il n'y a pas de place. Il n'y a même pas de hangar où on fait coucher les malades.
Les services de santé de Bourem expliquent cette multiplication des cas de paludisme par la non-tenue de la campagne de vaccination contre le paludisme. Docteur Amadou Meiga, médecin-chef du CCRF de Bourem.
C'est le manque de CPS. Le manque de CPS qui a entraîné l'augmentation des cas. Parce que rarement, on a vu des enfants de moins de 5 ans avec la CPS. Mais aujourd'hui, c'est le compliqué. l'éducation et surtout la gestion des évacuations, c'est surtout les enfants de la tranche CPS.
Selon le médecin-chef, le centre de référence est confronté à des difficultés dans la prise en charge de ces cas.
Les difficultés, c'est surtout le retard de consultation au niveau des centres de santé. La deuxième chose, c'est un problème de transfusion, parce que la plupart des gens qu'on nous envoie, qu'on nous évacue, c'est des cas de complications type anémique, un déficit de sang. Donc nous avons du mal à corriger ça parce que les parents sont réticents à donner du sang.
Les autorités sanitaires du cercle de Bourem sollicitent l'appui de l'État et des organisations humanitaires pour faire face à la situation. De Bourem, Tidjani Touré pour Studio Tamani.
À Menaka également, les centres de santé sont envahis par les malades souffrant de paludisme. Selon les autorités sanitaires de la région, l'ONG internationale Médecins du Monde Belgique, qui soutenait les structures de santé en médicaments, n'est plus en mesure de le faire. Les responsables de l'ONG affirment qu'ils n'ont pas de financement. Docteur Mustapha Sissoko, directeur régional de la santé de Menaka, joint par Aboubakar Yatara.
Cette période-là est la période de forte transmission de cette maladie dans notre pays. Depuis 2012, il y a une recommandation de l'OMS qui s'agit de procéder à la prévention à travers une stratégie.
Quel est le degré de l'évolution de cette stratégie dans la diminution de cette recrudescence du palio à Menaka?
Je voudrais dire que cette année, les interventions n'ont pas encore commencé. Nous attendons pour les intrants que le niveau national doit nous envoyer.
On peut avoir une estimation du nombre de gens touchés par le palio à Menaka?
Nous avons enregistré environ 30 000 cas de paludisme. Nous avons enregistré 2 cas de décès.
Et les ressortissants et sympathisants du village d'Arabou dans la commune de Gounzoureyo ont offert dimanche des médicaments pour lutter contre le paludisme au centre de santé avancé du dit village. L'objectif est d'aider dans la lutte contre le paludisme dans le cadre des actions des ressortissants. Des formations sur les techniques de maraîchage seront également organisées pour les femmes maraîchères. Ici à Bamako, suspension des cours dans les universités et instituts depuis le jeudi dernier. La décision a été prise par l'Association des élèves et étudiants du Mali. Selon les responsables de la coordination, cette grève s'explique par plusieurs raisons, notamment la prise en otage par le secrétaire principal de la faculté de droit privé des attestations de la licence de certains étudiants de l'année dernière, mais aussi les irrégularités des semestres. Cependant, pour le secrétaire général de l'AIM, cette grève va continuer jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Moussa Niagali, secrétaire général de l'Association des élèves et étudiants du Mali, joint par Mahaman Babakunta.
Le premier point de revendication est relatif à l'apparition d'un résultat. Ils ont organisé des évaluations. Le décanat a affiché un résultat avec un taux d'admis de 1%. Imaginez un taux d'admis de 1% dans une faculté. Le comité AIM a demandé au décanat de revoir ces résultats-là. La deuxième revendication est l'année passée, après l'organisation des examens, il y a eu la liste des admis. Donc, ils ont fourni des attestations. Bon, après, ils ont appelé 80 étudiants. Ils ont demandé à ces étudiants-là de venir avec leur attestation. Et qu'il y avait des horaires qu'il fallait corriger sur leur attestation. Donc, lorsque ces étudiants sont venus avec leur attestation pour corriger ces horaires-là, l'administration a tenu ces attestations. Ils ont dit aux étudiants qu'il y avait des horaires au niveau des résultats techniques. Donc, ils ont demandé à ces étudiants-là de reprendre les évaluations. Le comité AIM a tout simplement demandé à l'administration de rectifier ces attestations-là.
Et nos tentatives pour faire réagir les responsables de la faculté de droit privé sur la question sont restées vaines. Le collectif Tombouctou réclame ses droits, déplore l'état des routes de la région de Tombouctou et Gao en cette période d'hivernage. Selon le collectif, la population a du mal à avoir accès à d'autres localités à cause de l'état des routes. Cette situation s'ajoute également à l'insécurité qui sévit dans la zone. Par ailleurs, dans la région de Kaï, l'état des routes s'est amélioré selon des usagers. Mariam Kamba Keita.
Les autorités doivent respecter leurs engagements afin d'améliorer l'état des routes dans les régions du nord et du centre en cette période de pluie. Ces propos sont du collectif Tombouctou réclame ses droits. Selon Ibrahim Bouini, président du collectif, la dégradation des routes dans la région nord pose des sérieux problèmes.
La route menant de Tombouctou à Kévaré n'est pas du tout bitumée. Et la route Tombouctou-Gomakoura, dont le bitumage a commencé, s'est arrêtée depuis plusieurs années au niveau de Soumpi. Donc, chaque fois que vous partez à Tombouctou, c'est dans des énormes difficultés. En plus de l'insécurité. Et ce risque-là est amplifié par le fait que la route d'accès est difficile de voyage à cause de l'eau. Donc, au lieu de faire, par exemple, 12 heures de temps entre Tombouctou et Douanza, vous allez faire malheureusement toute une journée.
Quant à la région de Kaï, l'état des routes s'est beaucoup amélioré, selon le mouvement M23. Ses membres se disent satisfaits de l'action menée par l'État malien dans ces zones. Selon Mamadou Dramé, dit Diola, la construction des routes a permis d'enregistrer moins d'accidents dans la région de Kaï.
Voilà, donc on peut dire aujourd'hui que l'état des routes est passable parce que sur un accident mortel tous les jours, on peut maintenant faire au moins un mois sans accident. On est sorti pour la route Kati-Kaï, mais la partie la plus dégradée était la route Kati-Djigeni. Je suppose aujourd'hui que ça va. C'est plus mieux quand on sortait pour réclamer le bitumage. Maintenant, on peut supposer que c'est passable.
Nos tentatives pour faire réagir le ministère de l'Infrastructure et de l'équipement sont restés vaines.
À présent, la situation de la COVID-19 au Mali à la date de ce lundi 28 septembre 2020, les autorités sanitaires du pays ont enregistré 4 nouveaux cas positifs, 19 patients guéris et 0 décès. Ainsi, la situation cumulée est de 3090 cas positifs, 2439 guéris et 130 décès. Place maintenant à notre rubrique Actu COVID présentée par Moussa Malé Sissoko et Khalifa Goïta.
Chers auditeurs, bienvenue dans votre bulletin d'information Acti-Covid. Ce numéro s'intéresse à l'impact de la COVID-19 sur des écoles privées. Depuis l'arrêt des cours liés aux mesures de prévention de la pandémie du coronavirus, les employés de certaines de ces écoles ont du mal à avoir leur salaire. Témoignent-ils? Certains promoteurs d'écoles disent aussi être confrontés au non-paiement de scolarité des élèves. Notre reporter Khalifa Goïta a fait un tour dans certains établissements. Suivons son reportage.
Le 17 mars dernier, les autorités maliennes avaient décidé la fermeture des écoles pour réduire les risques de contamination de la COVID-19. Selon plusieurs promoteurs d'écoles privées, cette fermeture a impacté leurs conditions de travail. Issa Dao, directeur d'une école privée.
On a eu beaucoup de problèmes. D'abord, en toute franchise, vraiment, on n'arrive pas à payer les personnels enseignants pendant cette période. Donc, ils ont après 5 mois d'allurer avec nous. Non seulement pour les enseignants, mais aussi la location aussi, c'est un problème. On n'arrive pas aussi à payer la location des bâtiments. Mais sache que sans école, vraiment, les parents aussi ne viennent pas payer les mensualités.
Certains établissements ont pu mettre en place une alternative. Il s'agissait de mettre en place un programme de cours en ligne pour les élèves et un accompagnement pour les enseignants pendant la période de la fermeture des classes. Adama Yattara, directeur adjoint d'un établissement scolaire privé.
Nous avons mis en place un système en ligne pour envoyer les exercices aux élèves. On travaille avec certains professeurs. Cela aussi permettait aux certains professeurs de s'en sortir parce que tout le monde était en arrêt de travail. Vu il y a l'impact du corona, puisque ça fait actuellement 12 mois que nous sommes en train d'étudier et c'est la première fois. Les enseignants ont été payés normalement, bien pour les frais de scolaire. Nous, on n'a pas de problème par rapport à ça.
Certains promoteurs des écoles privées sollicitent l'aide des autorités pour faire face à certaines difficultés.
Le centre de santé communautaire de Kati dispose désormais de 2 ambulances dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Le CESCOM de Kati n'avait qu'une seule ambulance. La seconde ambulance est un emprunt fait par le centre de santé de référence de Kolokani. Place maintenant à la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par Dr Fadié Traoré, médecin au centre de prise en charge des malades de COVID-19 à l'hôpital du Point-G.
Utiliser le même casque pour emprunter les mototaxis peut-il être un facteur de contamination à la COVID-19?
Si une personne infectée par le virus avait porté le casque et qu'une autre porte le même casque, si la personne sera infectée. Bon, dans ce cas, ce qu'il faut faire, le mieux est de chaque fois désinfecter le casque avant que quelqu'un d'autre le porte.
Merci Dr Fadié Traoré pour ces précisions. C'est ce qui met fin à ce numéro d'Acti-Covid. Vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou à rendez-vous sur la plateforme Viamo en composant le 37-321, option 3 et 4.
Sidio Tamani.
Sidio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Actualité régionale, deux morts, c'est le bilan du chavirement d'une pirogue survenue vendredi sur le Bafi, un affluent du fleuve Sénégal dans la commune de Barenta, cercle de Bafoulabé. Selon des témoins, la pirogue a percuté une digue dans le fleuve avant de se renverser. Cinq personnes étaient à bord de l'embarcation, trois ont pu être sauvées, mais deux ont été emportées par les courants d'eau. Leurs corps ont été repêchés dimanche plus tard. L'enterrement s'est déroulé le même jour. Une formation sur les techniques de coiffure et maquillage a débuté dimanche à Koro. Une douzaine de participants, dont des filles et des garçons, bénéficient de cette session. La formation va durer 20 jours. Elle est financée par Swiss Contact dans le cadre du programme Jeunesse et Stabilisation des Régions du Centre. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.sudiotamani.org ou en appelant sur la plateforme Viamo au 37 321. Reste à notre écoute. Tout de suite, la question A.